enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le thème de ce séminaire, c'était « Toutes choses sont nouvelles ». Je crois que on s'appelle Souffle Nouveau, on a décidé de vivre des choses nouvelles, on a décidé d'amener un souffle nouveau sur notre pays, sur nos vies, sur les gens qui sont autour de nous. Et je crois qu'il y a une réalité importante là-dedans aujourd'hui. Je crois que Dieu veut vraiment faire toutes choses nouvelles. Vous savez, on a beaucoup l'occasion de voyager, ça fait bientôt un an et demi qu'on fait des séminaires. Moi, je voyage dans pas mal d'endroits aussi. Et à chaque fois qu'on arrive quelque part, on rencontre des pasteurs, on rencontre des chrétiens, et souvent on rencontre des pasteurs, des chrétiens qui sont fatigués, qui ont besoin d'un souffle nouveau, qui ont besoin de quelque chose de neuf dans votre vie. L'autre jour, le week-end dernier, j'étais à Besançon, et puis je parlais avec ce frère qui est super, il aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et puis, je lui disais, ça va Jean-Paul? Et puis il me disait, ouais, ça va, mais qu'est-ce qu'on est fatigué? Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, dans la région, les gens sont fatigués. Et puis hier soir, j'étais là, et puis je discutais avec Thomas, je crois, et puis il me disait, il y a une sorte de lassitude, de fatigue dans la région. Mais gloire à Dieu, Dieu est en train de bouger les choses. Et moi, je crois vraiment que Dieu, en ce moment, est en train de bouger les choses partout dans notre pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime la France. Parce qu'il aime les Français. Parce qu'il aime les gens qui sont pas français, qui vivent en France. Parce qu'il aime les Français qui vivent à l'étranger. Parce qu'il aime les gens. Et je crois que Dieu, en ce moment, il est là. Et parfois, on se dit, ouais, mais Seigneur, tu vois pas, pourquoi tu reviens pas? C'est compliqué, la vie, c'est difficile, c'est fatigant. Et on a l'impression, parfois, que Dieu s'en moque un peu. Mais Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, il est lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion. Et c'est pour ça que Dieu a quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf pour chacun d'entre nous. J'ai intitulé ce message « Toutes choses anciennes sont passées » et je pense que vous voyez le verset auquel je veux faire allusion. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « Si quelqu'un est en Christ » Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Christ ce matin ici? Amen. Amen, on est en Christ, d'accord? « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Quelque chose de créé, quelque chose de sorti du néant. Quand vous créez quelque chose, vous le sortez du néant. Si j'attrape un tableau de Picasso et que j'essaye d'en faire une copie, d'abord, je ne vais pas la vendre bien cher parce que je ne suis pas très doué en peinture, mais ensuite, ce ne sera pas une création, ce sera une copie. Mais là, Dieu ne nous parle pas de faire une copie des choses anciennes un petit peu meilleures. Il nous dit, il est une nouvelle création, quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose d'entièrement neuf, d'entièrement créé, parti de rien. Et Dieu a créé une nouvelle création. Paul insiste et il dit, les choses anciennes sont passées. Passé, c'est derrière moi. C'est pas devant, devant j'ai mon futur, aujourd'hui j'ai mon présent, mais les choses anciennes, elles sont passées, c'est-à-dire elles sont derrière moi. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors qu'est-ce que j'aime ce verset? J'aime ce verset parce que franchement, mon passé, il n'est pas toujours reluisant. Il y a des choses dans le passé, j'ai pas envie qu'on me les rappelle. Hier soir, je discutais dans la voiture avec Ken, mon ami anglais chez qui je loge, et on parlait des choses anciennes, des choses passées. Et vous savez, moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'imaginais le jour où j'allais me retrouver devant le Seigneur et la Bible nous dit que le livre de ma vie serait ouvert et puis qu'il y aurait la liste de tout ce que j'avais fait. Et au fur et à mesure que je me souvenais de tout ce que j'avais fait, j'avais dit, oh là là, Seigneur, je suis pas si pressé que ça d'arriver devant toi, hein. Et pendant des années, je sais, quand j'étais jeune chrétien, pendant des années, ça me travaillait. Parce que à chaque fois que je pensais à mon passé, je me disais, oh là là, mais j'ai pas envie d'arriver un jour que quelqu'un ouvre un livre et puis me dire, oh, tu te souviens de ça, tu te souviens de ça. Et j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu par rapport à ça. Et souvent, je criais à Dieu, je disais, mais j'ai pas envie qu'on me rappelle tout ça. J'ai pas envie. Moi, j'avais l'impression que le jour où j'allais arriver devant toi, ce serait la fête, ce serait merveilleux. On serait enfin dans la présence de Dieu. Et puis, il y a ce verset qui dit que le livre va être ouvert. Et j'avais pas envie que ce livre-là soit ouvert. Qui c'est qui a envie de voir ce livre ouvert? Il y a quelqu'un? Vous avez envie qu'on l'ouvre là ce matin? Ben moi, pendant des années, j'ai dit non à cette question. Et aujourd'hui, je dis oui, parce que aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Il y a plein de bonnes choses. Et alors que je priais, le Seigneur m'a dit, écoute, tu peux lire dans ma parole que même moi, l'Éternel, omniscient, qui connaît toutes choses, j'ai oublié ton péché. Si je l'ai oublié, est-ce que tu crois vraiment que j'ai un ange secrétaire qui a tout marqué dans le livre et qui me dira « Éternel, mon Dieu, tu sais, Michael, quand même, ce jour-là, il avait fait ça, ça, ça et ça ?» Non. Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ces choses-là parce qu'elles sont effacées. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que nous avons confessé, toutes nos erreurs, tous nos péchés que nous avons confessés, Dieu les a effacés. Il les a effacés de quoi ? De ce fameux livre. Alors si nous sommes humbles, si nous venons devant le Seigneur, si nous demandons à Dieu d'effacer nos péchés, si nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous allons ouvrir ce livre, il y aura, tiens, ce jour-là, Michael, il a fait ça, c'était super. Et puis ce jour-là, il a fait ça, c'était super. Et ce jour-là, il a fait ça, c'était super. Et peut-être que moi, je me souviendrai. Mais attends, entre ces deux trucs super, je me souviens, ça, c'était pas super. Mais ce sera plus là. Ce sera effacé. Toutes choses anciennes sont passées. Elles n'ont plus d'existence. Si Dieu a oublié quelque chose, lui qui était omniscient, ça veut dire que la chose n'a plus d'existence réelle. Parce que Dieu, il peut pas oublier les choses en étant omniscient. En connaissant toutes choses, il peut pas les oublier. Donc si Dieu a oublié les choses, ça veut dire que la chose n'a plus d'existence réelle. Et dans ce livre, elle ne sera pas notée. Alors du coup, je me suis réjoui de nouveau de me dire que bientôt, on sera dans la présence de Dieu et qu'il n'y aura ni chagrin, ni angoisse pour celui qui est en Jésus-Christ. Parce que toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, le combat qu'on a aujourd'hui, les uns et les autres, ce n'est pas tant de changer de vie, mais c'est d'accepter que ce que nous venons de voir est vrai. D'accepter que Dieu a fait une nouvelle création, une création qui n'est pas coléreuse, une création qui n'est pas amère, une création qui n'est pas blessée, une création qui est plein de zèle pour l'Éternel, une création qui est plein de zèle pour le royaume de Dieu, une création qui peut dire le zèle de la maison de mon Père me consume, comme il était question au sujet de Jésus-Christ. Ça, c'est la création, la nouvelle création, la nouvelle créature que Dieu a créée. Le problème, mes amis, c'est qu'en tant que chrétien, souvent, on est un peu schizophrène. Vous savez, il y a la vieille nature qui essaye de cohabiter avec la nouvelle nature et les deux natures qui essayent de cohabiter avec le Saint-Esprit. Ça fait beaucoup de monde hein, pour une seule habitation. Hein. C'est un petit peu étroit là-dedans pour moi. Alors déjà, une chose est sûre, c'est que puisque toutes choses anciennes sont passées, j'ai pas de raison de cohabiter avec ma vieille nature. J'ai pas besoin de ça. Et quand le diable il arrive et puis il me dit « Oh, t'es comme ça », non, je suis pas comme ça. Je suis désolé. Marie-Pierre, est-ce que je suis coléreux? Ben alors. Claude, est-ce que je suis beau? Il a vraiment pas de discernement, hein. C'est incroyable. Toutes choses anciennes sont passées. Et mes amis, le diable, la plupart du temps, il a pas 50 stratégies pour nous bousiller la vie. Il vient et il essaye de nous rappeler les choses anciennes. Il vient et il nous dit, tu te souviens de ça? Et nous souvent, on dit, ben oui, c'est vrai. J'étais comme ça. Ça c'est dans le meilleur des cas. Ou je suis encore comme ça. Et puis s'il n'arrive pas, si on lui dit « Mais non, c'est pas vrai, ça c'est des choses anciennes », il vient et puis il appuie sur le bouton, il essaye de faire démarrer la machine de la vieille nature. « Viens, j'appuie sur le bouton ». Et là tout d'un coup, il a appuyé sur le bouton et on se dit « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible, en vérité, je suis encore comme ça ». Puis après, il y a un frère qui vient poser la main sur votre épaule et qui dit « Non, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça ». Et gloire à Dieu pour les frères qui viennent nous dire « Non, t'es pas comme ça, t'es une merveilleuse créature ». Vous savez, si on passait plus de temps à proclamer ce verset sur les uns et les autres plutôt que proclamer tout ce qui va pas chez les uns et les autres, eh bien la vie dans l'Église serait merveilleusement agréable. Amen. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. Alors le diable, lui, il passe son temps à nous dire, écoute, le problème, c'est que les bonnes choses, elles sont passées aussi. Ah, c'était tellement bien à cette époque-là, quand tu étais nouveau converti, et puis qu'à peine t'ouvrais la bouche, tu avais la bénédiction de Dieu qui venait. Maintenant, c'est galère. Et on commence à ressasser toutes ces choses-là, et on se dit, eh ben, on n'est peut-être pas aussi parfait, ou peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que j'ai pas assez grandi, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Et on commence à se poser des questions. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un prospectus, un tract d'évangélisation, qui disait, aujourd'hui, j'ai pas le temps, aujourd'hui, si, aujourd'hui. Et puis, à la fin, on voyait, à la fin de la petite bande dessinée, le gars, il était dans la tombe, et puis c'était marqué, c'est trop tard. Mais vous savez, il est jamais trop tard avec Dieu. Il y a un proverbe juif qui dit qu'il y a, dans la vie des gens, deux meilleurs moments pour faire une bonne action. Le premier des meilleurs moments pour faire la bonne action, c'était hier. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. Rien ne nous empêche de faire une bonne action aujourd'hui. Et peut-être demain matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, oh, hier j'aurais peut-être pu faire ça pendant le séminaire, ou j'aurais peut-être dû donner cette parole pendant le séminaire, ou j'aurais peut-être pu sauter de ma chaise et me mettre à louer Dieu malgré toutes mes difficultés. Oh, j'ai laissé tomber, et j'ai loupé le coche. C'est pas grave. Parce que demain, le meilleur moment c'était hier, donc aujourd'hui, et le meilleur moment de demain, ce sera demain. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard avec Dieu. Souvenez, un jour Jésus a donné cette parabole, c'est dans Matthieu, chapitre 20, verset 8. C'est la parabole des ouvriers qui arrivent tout au long de la journée. Il y en a qui sont arrivés le matin, et il y en a qui sont arrivés à midi, et il y en a qui sont arrivés une heure avant d'arrêter de travailler. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu les rétribue tous de la même façon. C'est jamais trop tard pour faire une bonne chose. C'est jamais trop tard pour travailler au royaume de Dieu. C'est jamais trop tard. Et quand le diable il vient et vous dit, mais c'est trop tard, vous lui dites, non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup Ken, mon ami anglais. J'aime beaucoup loger chez lui. Vous connaissez Ken ? Il est de la région, hein, depuis 2 ans. Et puis, il m'a raconté son histoire un petit peu. Il a tout plaqué il y a 2 ans, il a plus de maison en Angleterre, il a plus rien, il a tout plaqué, il est venu vivre ici. J'imagine que s'il a fait ça, c'est pas simplement pour la beauté de Montargis. Hein? C'est joli Montargis, il y a des forêts, mais bon, je pense que s'il a fait ça, c'est pas uniquement pour ça. Il a fait ça parce que il avait envie de rentrer dans la destinée que Dieu avait pour lui ici. Amen? C'est ça, hein? Mais ce qui m'épate le plus, c'est qu'il m'a dit son âge. Il a bientôt 76 ans. Pardon. Pardon, 75 et demi. C'est jamais trop tard pour entrer dans sa destinée. Moi, j'ai vraiment une chance extraordinaire. Je me suis converti, j'avais 20 ans. Ça fait quelques années maintenant. Et quand je me suis converti, j'avais l'impression que j'avais déjà brûlé toutes mes cartouches. J'avais 20 ans, oh, j'avais fait des tas de choses extraordinaires. Je me suis converti en Nouvelle-Zélande, j'avais fait le tour du monde, j'avais traversé tout le Pacifique Sud en voilier. Je trouvais que j'avais fait des choses extraordinaires de ce côté-là, mais j'avais aussi abusé de la drogue, abusé de toutes sortes de choses qui sont vraiment pas glorieuses. Et j'avais l'impression que je passerais jamais 30 ans. C'était terrible. Vous savez, quand vous avez 20 ans, vous venez de faire votre anniversaire de 20 ans et vous vous dites, je passerai jamais 30 ans. Et c'est vrai qu'avec la vie que je menais, c'était compliqué de passer 30 ans si j'avais continué sur ce rythme-là. Alors j'ai eu de la chance. 20 ans, je me suis converti. Mais celui qui se convertit à 40, il a autant de chance que moi qui me suis converti à 20. Et celui qui se convertit à 60, c'est toujours pareil. Parce que mes amis, on n'est pas là pour se dire c'est trop tard. Peut-être que vous allez faire quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que Ken il va faire quelque chose à l'aube de ses 76 ans. Il va peut-être faire quelque chose qui peut paraître peut-être insignifiant. Peut-être c'est trop tard, il se dit c'est trop tard. Mais si ça se trouve, il va toucher demain le prochain Billy Graham de la prochaine génération. Et alors là, il aura fait ce que Dieu attend de lui. C'est jamais trop tard. Vous ne savez pas si c'est trop tard Ne dites pas c'est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est une des choses que le diable vient nous répéter tout le temps. Oh, mais c'est trop tard. Si tu avais pu faire ça avant, mais c'est trop tard. Dieu, il est arrivé trop tard dans ma vie. Dieu, il n'est jamais arrivé trop tard nulle part. Vous vous souvenez quand les gens sont arrivés et ils ont dit à Jésus, écoute, c'est plus la peine que tu te déplaces. Jaïrus, n'embête pas le maître, parce que de toute façon, ta fille est morte. On aurait pu dire, franchement, il n'a pas assuré Jésus. Hein, il est arrivé trop tard. Ah, s'il était arrivé ne serait-ce que 5 minutes avant, mais là, trop tard, il est arrivé trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Qu'est-ce que dit Jésus à Jaïrus? Il lui dit, écoute, ne crains pas, crois seulement. C'est jamais trop tard avec Dieu. Et Jésus est arrivé. Et il a pris la main de cette petite fille, l'a invitée à se lever. Il a ressuscité des morts. La sœur de Lazare, elle a dit exactement la même chose. Ah, Seigneur, si t'étais arrivé avant, mon frère serait encore de... Attends. Je suis pas en retard. Et le Seigneur, je crois qu'il dit vraiment de façon prophétique à plusieurs ce matin. Je ne suis pas en retard. Écoutez cette parole. Peut-être vous vous êtes dit dans votre cœur, dans votre esprit, ah ben, c'est trop tard pour moi. Là, je suis arrivé au bout, tout est foutu, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Et Jésus n'est pas en retard dans ta vie. Il va faire tout ce qu'il a à faire. S'il n'a pas été en retard pour Lazare, qui était déjà dans le tombeau depuis 3 jours, il n'est pas encore en retard pour toi, qui est assis sur cette chaise et bien vivant. Amen. Est-ce qu'il y a des morts au milieu de nous ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à sentir, parce que ça fait 3 jours qu'ils sont dans le tombeau? Non. Alors, il n'y a pas de situation où vous êtes trop en retard, où Jésus est trop en retard ce matin. Jésus, il est là, il n'est pas en retard, il a envie que nous comprenions qu'il n'est jamais trop tard. Après, il y a les gens qui disent, ah oui, mais c'est, tu peux pas comprendre. Moi, j'ai fait des choses dans ma vie, c'est très grave. Et là, souvent, le diable, il dit, écoute, t'as vraiment tout gâché. Jésus était venu, il t'avait donné une super vie, il t'avait tout donné et t'as tout foutu en l'air. Et la plupart d'entre nous, quand on a péché et qu'on se dit ça y est là, on a vraiment déconné. Et le diable il vient, il dit ouais t'as raison, t'as vraiment déconné là. Ah oui oui, en plus j'ai fait ça, tu sais. Ah ouais, en plus t'as fait ça. Ah vraiment, je peux plus servir Dieu. Ah ben non, tu peux plus servir Dieu. C'est là qu'il a gagné. Vous savez, le diable, vous croyez pas qu'il a assez de gens qui l'adorent et qui pêchent tous les jours dans la ville de Montargis et qu'il a besoin de vous faire pêcher à vous? Le but du diable, quand il vient avec ses tentations, c'est pas tant que ça de vous faire pêcher. Il a assez de gens qui pêchent autour de lui. Non, le but du diable, c'est de vous arrêter dans votre destinée. Parce qu'une fois que vous avez péché, vous commencez à culpabiliser. Et vous dites, ah, c'est foutu, je ne peux plus servir Dieu. Et combien de gens que je connais, mes amis, se sont arrêtés en cours de route dans leur destinée parce qu'à un moment donné, ils sont tombés. Et c'est quand ils ne se relèvent pas que le diable a vraiment gagné. Parce que le diable qui vous a fait tomber, il n'a pas encore gagné la bataille. Il a juste réussi une prise là dans le combat. Il vous a mis à terre, il vous a fait tomber, il a réussi, mais ça veut pas dire qu'il a gagné tout le combat, qu'il a gagné toute la bataille. Non, et encore moins la guerre. La guerre, c'est sûr, il a perdu. Il y a 2000 ans à la croix, ah, c'était terminé. Il a perdu. Il a été défait. Mais cette petite bataille là d'aujourd'hui, il a pas encore gagné parce que vous êtes tombé. Il va la gagner si vous dites ah ben je me relève plus. Vous savez, c'est comme sur un ring de boxe. Le gars, il est là, il compte. 1, 2, 3. Et puis là, le boxeur, il se dit, ah, je vais essayer de me lever. Et puis, il arrive pas. Et l'arbitre, il continue. 4, 5, 6, 7. Mais dans ce combat-là, il y a Dieu qui arrive et puis qui intervient. Et l'arbitre, il continue à compter. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Il sait plus compter, l'arbitre. Parce que Dieu, il empêche de compter. Dieu, il dit, tu vas te relever, t'es pas KO. Parce que si tu es KO, si tu acceptes de dire que tu es KO, alors là, t'as vraiment perdu. Le coup de poing que t'as pris, il t'a peut-être sonné, mais il t'a pas mis KO. Tu te lèves, tu te relèves et tu te bats. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, ça, Michael, mais moi, j'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment grave. Vous vous souvenez de David ? C'était un homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu pour être roi d'Israël, avec des promesses. Mais mes amis, le genre de promesses que David a reçues, c'est extraordinaire. David, il avait vaincu Goliath, il était passé, il avait été la terreur chez les Philistins. Il avait tenu le cap, même quand Saül le persécutait, il n'avait jamais mis la main sur Saül. Il avait tenu le cap à tous égards, il avait remporté toutes les batailles. Et la Bible nous dit qu'un jour, il était sur sa terrasse, le pauvre. Ouais, c'est une histoire qui commence à peu près normalement. Moi, j'aime bien me reposer sur la terrasse de ma maison. Bon, j'ai pas de maison, mais si j'avais une maison, j'aimerais certainement me reposer sur la terrasse de ma maison. Mais la Bible nous dit qu'il était en train de se reposer sur la terrasse à la saison, à l'époque où les rois partaient à la guerre. Donc là, il y a un petit bug déjà au départ. Il est censé travailler à établir le royaume de Dieu et il est sur sa terrasse en train de se reposer. Et puis là, l'histoire classique, il y a Bathsheba qui arrive. Elle sort dans son bikini de chez Dior. Elle arrive sur la terrasse au pied de la piscine. Et puis là, David, il la voit, il dit « Waouh, quel canon !» Ça commence comme une histoire bête. Et peut-être ça vous est arrivé. Bon, peut-être vous n'étiez pas sur la terrasse, peut-être vous étiez devant la télévision. Peut-être c'était cette pub un petit peu trop osée que vous avez regardée, même si vous aviez envie de zapper. Vous avez remarqué comment le pouce a du mal à trouver le bouton de la zappette quand c'est le moment de zapper? Moi, si jamais mon pouce ne trouvait pas suffisamment vite, ma femme à côté, elle trouve le bouton tout de suite. Direct. Mais là, David, eh ben, il était tout seul sur sa terrasse, la zappette n'avait plus de pile, il s'est retrouvé coincé, et le voilà, il tombe dans le péché. Bon, un adultère. C'est quand même arrivé très 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 souvent dans notre pays, à des tas de gens. Mais lui, il n'a pas trouvé que c'était suffisant. Non seulement il tombe dans l'adultère, mais en plus il commet un meurtre. Alors, jusqu'à l'adultère, je ne pose pas la question, je ne veux pas être indiscret, mais qui c'est ici qui a commis un meurtre? Ouais. Donc vous voyez, vous êtes encore qualifié, hein? Parce que David, après avoir tapé la flemme sur sa terrasse, après être tombé dans l'adultère, après avoir essayé de maquiller son adultère en faisant venir le mari de la femme pour qu'il puisse coucher avec elle et puis qu'il puisse justifier d'un bébé qui venait, tout ça n'a pas marché. Il a commandité un meurtre, il a prémédité. Il a renvoyé Uri avec la lettre qui était son propre arrêt de mort et le pauvre, il ne savait même pas. En plus, vous imaginez, pendant que Uri se bat pour faire avancer le royaume de Dieu, David le fait assassiner. Waouh ! Alors, qui c'est qui dit « moi j'ai fait pire » ? Et même s'il y avait trois mains qui se levaient, ce ne serait pas si grave que ça. Ce ne serait pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'a fait David ensuite ? Il a essayé de faire profil bas. Il s'est dit, bon, personne ne s'est aperçu de rien, ça va. Et tout d'un coup, il y a Nathan qui arrive, avec sa petite histoire de brebis, de barbecue, qui a mal tourné. Et là, qu'est-ce qui se passe ? David, il se repent. Et moi, j'aime beaucoup. Relisez le psaume 32. C'est un de mes textes préférés dans la parole de Dieu. Tant que je me suis tu, la main de l'Éternel s'appesantissait sur moi. Mais heureux l'homme dont la transgression a été effacée, parce qu'il a confessé son péché à l'Éternel, et l'Éternel l'a effacé. Heureux l'homme dans lequel il n'y a point de mauvaise foi, dans le cœur duquel il n'y a point de mauvaise foi. Vous savez, Dieu, ce qu'il n'aime pas, c'est quand on essaye de dealer avec lui. Vous savez, le système de justice américain, Vous pouvez être le pire des criminels, mais si vous vendez vos petits copains, eh ben vous allez avoir un arrangement, protection des témoins, peut-être que vous n'allez même pas en prison, même si vous avez tué des gens. C'est quelque chose d'abominable parfois, vous savez. Quand vous regardez ça à la télé, vous dites « Ouh là là, c'est pas beau, hein ». Vous voyez le criminel partir tranquillement parce qu'il a vendu les petits copains. C'est un principe que Dieu n'aime pas. Dieu, il n'est pas là en train d'essayer de dealer sur votre culpabilité. Vous êtes coupable. Il n'est pas en train d'essayer d'avoir un arrangement à l'amiable en disant « Bon, d'accord, on va plaider en dessous, tu acceptes de dire ça, moi j'accepte de dire ça, on va faire un deal ». Non, Dieu, il dit « Tu viens et tu te repens, tu confesses ton péché à l'Éternel et une fois que c'est fait, c'est balayé, c'est effacé parce que la grâce de Jésus-Christ a été pourvue à la croix. » Amen. Ça, c'est le message de l'Évangile. David a décidé de se repentir. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a pleuré, il a pris le sac et la cendre, il était devant l'autel de l'Éternel et il disait « Seigneur, je suis désolé ». Il savait que l'enfant allait mourir, le fils de Bathsheba, il savait qu'il allait mourir, il savait, il priait, il jeûnait, il intercédait, il s'humiliait et tout d'un coup il entend des murmures. Alors il se retourne et puis il regarde derrière et puis les gens sont là. Il se demande « Qui c'est qui va aller lui dire que l'enfant est mort ?» Et j'imagine la situation, vous savez, David, il venait de faire assassiner Uri. Il avait pété un câble. Alors il devait se dire, mais vas-y toi, va lui dire. Moi, et pourquoi moi? Mais vas-y, c'est à toi d'aller lui dire. Mais non, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de péter une colère, il risque de sortir son épée, de me trucider. Parce que je lui dis que le petit est mort. Il devait flipper les gars, grave. Alors ils étaient derrière le rideau, ils étaient en train de discuter et David les a entendus et tout d'un coup David il dit « Est-ce que l'enfant est mort ?»« Oui Seigneur, il est mort. » Et alors là on pourrait se dire « David, il a dû s'effondrer. » Non seulement il a vraiment péché grave, mais en plus de ça, Dieu le rejette. Il n'a pas écouté sa prière. Alors là, il aurait pu s'effondrer, se dire, ça y est, c'est fini, je suis plus bon à rien, je suis plus digne d'être roi d'Israël, je suis plus digne de rien. Et mes amis, combien de fois on se l'est dit, celle-là, hein? En tout cas, moi, je me le suis dit souvent, hein. Non, David, il est dit qu'il s'est levé, il est allé prendre une douche, il s'est fait servir à manger, et ensuite, il est allé voir Bathsheba pour la consoler. Le verset d'après, il y a Salomon qui arrive. Donc vous imaginez comment il est allé consoler Bathsheba. Il est allé la consoler. Alors, la plupart d'entre nous, là, on se dirait, mais c'est pas logique. Après tout ce qu'il a fait, pourquoi il continue à être roi? Pourquoi il continue à servir Dieu? Pourquoi il continue? Eh bien, il continue parce qu'il n'a pas envie de donner la victoire au diable. Il continue parce qu'il a été appelé et oint pour être roi d'Israël. Et il ne va pas abandonner le poste en plus d'avoir fait toutes les bêtises qu'il a déjà fait. Il va rester à son poste. Et vous savez, nous les chrétiens, la plupart du temps, quand on voit des choses comme ça, on se dit, mais de quel droit il reste à son poste? De quel droit il continue à servir Dieu alors qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça? Du droit de la grâce. Du droit qu'on n'a pas le droit de laisser le diable gagner une bataille de plus quand on est tombé. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui se relève et qui dit « c'est jamais trop grave avec Dieu ». Si je me repens sincèrement, si je décide de changer ma mentalité, si je décide de changer d'optique, si je décide de restituer, de réparer ce que je peux réparer et restituer et que je compte sur la grâce pour le reste, alors Dieu ne se repent pas de son appel sur ma vie. Et c'est ça que David a fait. Il s'est relevé. Et pour attester le fait que Dieu ne s'est pas repenti, il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 6. C'est la généalogie de Jésus. Et vous savez ce qu'il est dit dans la généalogie de Jésus? Il est dit, au verset 6, « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. » Waouh! Dieu, il a décidé d'intégrer dans la généalogie de Christ Bathsheba, la femme d'Uri, qui avait commis un adultère. Théoriquement, elle aurait dû être lapidée. David aussi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? C'est que la grâce prévaut. la grâce prévaut sur ce que vous faites, ce que vous avez fait. La grâce prévaut sur le péché, quel qu'il soit. À la condition que vous alliez vers l'Éternel, que vous vous repentiez, que vous reconnaissiez vos fautes et que vous en appeliez à sa grâce, plutôt qu'à des circonstances atténuantes et à tout ce qu'on peut trouver comme bonnes excuses pour avoir péché. Amen. La grâce prévaut. Il n'est jamais trop tard et ce n'est jamais trop grave. Dieu a décidé que ce ne serait jamais trop grave. Il dit, je vais venir au secours du pécheur qui se repent et je vais l'aider et je vais le réinstaurer dans toutes ses prérogatives. Regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, il arrive un jour devant son père, il lui dit, allez, je voudrais la moitié de mon héritage. Et il part. Et il dilapide l'héritage. Et il se retrouve dans une situation catastrophique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se dit, ben, je vais aller voir mon père parce que chez mon père, même les employés ont un meilleur statut que ce que je vis aujourd'hui. Donc je vais aller voir mon père et je vais lui dire, écoute, je suis plus digne d'être appelé ton fils, mais si tu pouvais me recevoir comme un employé, au moins comme ça j'ai de quoi manger, de quoi dormir. Il est dit que le fils prodigue arriva chez son père et à ce moment-là, il avait préparé tout son petit speech. Vous savez, je suis plus digne, je suis ci, je suis ça, prends-moi comme un employé. Il n'a pas eu le temps de le placer, son speech. Parce que son père l'a vu arriver de loin, il a couru vers lui, il a pris dans ses bras, quelle que soit l'odeur, quel que soit l'état dans lequel il était, il a pris dans ses bras et il a dit, allez, on va restaurer tout ça. Alors il a commencé par restaurer la propreté, parce que j'imagine ça devait cocoter pas mal. Le gars, il avait passé pas mal de temps dans une porcherie. Ensuite, il lui a mis des sandales à ses pieds. On peut faire tout un message sur ce qu'il donne. Mais moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'il est dit qu'il lui a mis l'anneau au doigt. Vous savez ce que c'était, cet anneau? Qui c'est qui a vu Ben-Hur, le film, ici? Vous vous souvenez quand Charlton Heston il se pointe à Jérusalem après avoir été esclave, galérien, gladiateur, il a été adopté par un ponte de Rome, il en est devenu son héritier. Et quand il arrive à Jérusalem pour se présenter à la forteresse romaine et pour pouvoir être rentré normalement, il dit pas « Salut, je suis Ben-Hur ». Il dit non, il présente sous sa nouvelle identité, l'identité romaine qu'il a reçue. Et pour prouver ça, il enlève sa bague et il lui dit « Amenez ça au consul ». Et le consul reçoit la bague, il dit « Ah ben oui, ça je reconnais, c'est la famille un tel de Rome, faites-le rentrer ». Je vous explique pas le choc quand il voit rentrer Ben-Hur. C'est un de mes moments préférés dans le film. Il ouvre des yeux comme des soucoupes. L'identité a été prouvée dans ce film par sa bague. Pourquoi? Parce que si vous faites un petit peu d'histoire, vous vous apercevrez qu'à l'époque de Jésus, ça servait souvent de carte d'identité. C'était comme le sceau, vous savez, quand vous appliquiez votre sceau, c'était vous prouviez que le document était réel, que c'était bien vous qui l'aviez signé. C'était un petit peu comme le code sur votre carte bleue pour vous identifier à la banque. Vous arriviez, vous mettiez... Ah, tac, 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 le code, vous savez. Ah oui, c'est bien lui, on peut lui donner des sous. C'était exactement comme ça que ça se passait. Lorsque le fils prodigue revient, Dieu lui rend son identité et il lui rend aussi sa position dans la maison. Non, je ne vais pas faire de toi un employé. Je ne vais pas faire de toi un sous-produit de la maison. Je te réintègre dans ta position de fils. Je te réintègre dans ta position d'autorité. Tu étais appelé à gérer mes biens, à t'en occuper, à diriger ma maison avec ton frère. T'es parti, t'as dilapidé une grande partie, mais c'est pas grave. Puisque tu es revenu et que tu te repens, je te reprends et je te réinstaure dans tes prérogatives. C'est pas si grave que ça, ce que t'as fait. Ne recommence plus, mais c'est pas si grave que ça. Et ça, c'est la mentalité de Dieu. Il n'y a rien de trop grave. Il n'y a rien de votre passé qui peut vous empêcher de rentrer dans toute votre destinée et dans tout votre avenir. Parce que Dieu a fait de votre passé quelque chose qui n'existe plus. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Dieu crée, Claude Payan dit souvent ça, hein, Dieu quand il vous a recréé, il n'a pas recréé un tocard. Il n'a pas recréé quelqu'un qui n'est pas digne. Il n'a pas recréé quelqu'un qui va utiliser pour des travaux de seconde zone. Non, la Bible nous dit qu'il a vous a recréé en Christ en tant qu'héritier, qu'il vous a adopté, qu'il a fait de vous ses fils et ses filles. C'est pas rien. Vous avez été recréés fils et fille de Dieu, afin de pouvoir rentrer dans toutes les choses que Dieu avait prévues pour vous. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est pas est-ce que c'est trop tard pour moi? C'est pas est-ce que c'est trop grave ce que j'ai fait? La vraie question aujourd'hui, mes amis, c'est est-ce que vous aimez assez Dieu pour lui faire confiance? Quand il vous dit vous êtes une merveilleuse créature, vous pouvez vous lever et servir dans mon royaume. Vous êtes digne d'être appelé mes enfants. Vous êtes digne d'être mes héritiers. Vous êtes digne de vous lever et d'être co-héritier avec Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes digne d'être ceux qui apportent mon royaume sur cette terre. Est-ce qu'on aime assez Dieu pour faire ça? Et la question aujourd'hui que Dieu pose à son peuple, c'est pas qu'est-ce que vous avez fait hier ou qu'est-ce que vous avez fait avant-hier ou qu'est-ce que vous avez fait foirer dans votre vie. La question c'est, est-ce que vous m'aimez assez? Et là, on a un texte merveilleux dans la parole de Dieu à ce sujet-là. Souvenez Pierre avec son carafon de marin-pêcheur. Vous savez que j'étais marin-pêcheur, moi, dans ma jeunesse, comme Pierre. C'est pour ça que je l'aime bien. J'arrive bien à m'identifier à ce gars-là. J'étais marin-pêcheur aussi. Et Pierre, il est là et puis il est toujours « Oh, moi, je t'abandonnerai jamais, oh, moi, ci, oh, moi, là. » Et quand Pierre dit ça, il est sincère. Vous savez, quand Pierre, il dit « Jamais tu monteras sur la croix » ou « Jamais, moi, je t'abandonnerai, même si tous les autres devaient partir, moi, je resterai. » Quand Pierre dit ça, il est sincère. Il aime vraiment Jésus de tout son cœur. Mais cet amour, mes amis, qui est le fruit de nos émotions, de notre âme, eh ben, c'est un amour qui n'est pas suffisant. Et Christ, aujourd'hui, il ne cherche pas des gens qu'il aime simplement de tout leur cœur. Alors, Jésus va dire à Pierre, écoute, le coq n'aura pas encore chanté que tu auras déjà renié 3 fois mon nom. Et quand Jésus lui dit ça, il ne dit pas ça pour mettre Pierre dans l'embarras. Il ne dit pas ça pour que Pierre il prenne une bonne leçon, vous savez. Il ne dit pas ça pour lui faire honte. Il a un programme établi, Jésus, à ce moment-là. Et on connaît tous l'histoire. Pierre, en effet, a renié Christ. Il a renié Christ avec des imprécations. Il s'est mis à crier, il était énervé, il était en colère. Il s'est mis au rang de ceux qui moquaient Christ, afin qu'on comprenne bien que lui, il n'y était pas avec lui. C'est terrible, hein? C'est pas moins grave que ce qu'a fait Judas. Vous savez, la différence entre Judas et Pierre, dans les faits, il n'y a pas grand-chose comme différence. Par contre, par la suite, il y a une grosse différence, c'est que Judas, il va regretter ce qu'il a fait. Il va réaliser qu'il a fait une grosse boulette, mais à la place de se donner à la grâce de Dieu, il va décider de se condamner lui-même, de se juger lui-même, de s'exécuter lui-même. Il a tout fait tourner autour de lui-même. Pierre, lui, va se repentir. Il va pleurer amèrement sur ce qu'il a fait. Il va changer de mentalité. Et là, Pierre, il est prêt à mourir pour Christ. Une fois qu'il a renié 3 fois avec imprécation, une fois qu'il a vu mourir, même s'il est, il est mort de trouille, là, Pierre. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Il ne sait plus où il en est, le pauvre. Quand les femmes viennent lui dire, Jésus est ressuscité, il dit, mais elles sont folles. Ça doit être le chagrin qu'il aura. Et malgré tout ça, Pierre qui retourne à son métier de marin-pêcheur, il est là dans la barque. Et tout pourrait s'arrêter là, vous savez, pour lui. Mais tout d'un coup, il y a Jésus qui est sur la plage, en train de faire un barbecue de nouveau. Il était du sud, Jésus, c'est sûr. Hein. Il n'arrête pas de faire des barbecues. Il est là et puis il dit, allez, venez manger du poisson. Et Pierre, il se dit, ça y est, super. Je me suis planté, mais ce n'est pas si grave que ça. Jésus est là, il m'a d'un barbecue. Donc c'est qu'il n'est pas trop fâché. Alors il est là, et puis au début du barbecue, j'imagine, il doit se sentir bien, Pierre. Oh, le maître est de retour et tout. Et puis, bon, à ce moment-là, devant les sardines en train de griller, vous savez, le diable, il vient. Ouais, mais tu... Mais tais-toi, regarde, il m'a fait les sardines. Et tout d'un coup, Jésus lui pose la question. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur. Et là, Pierre, il est tout content. Ouais, c'est... Seigneur, écoute, après ce que j'ai fait quand même, merci. C'est... Oui, je t'aime. Et là, Jésus lui dit, alors, tu vas t'occuper de mon troupeau, tu vas faire paître mes agneaux, tu vas travailler à mon royaume, d'accord ? Et Pierre, là, il doit être content. Le problème, c'est que quelques minutes après, Jésus revient avec la même question. Pierre, m'aimes-tu ? Et là, Pierre, il a dû se dire, mais pourquoi il me repose la question ? C'est réglé comme affaire. Je lui ai dit, oui, il m'a offert le barbecue, on a décidé qu'on allait travailler ensemble, tout est bon, là, il n'y a pas de problème. On a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et connaissant le caractère de Pierre tel qu'il est décrit dans la Bible, il a dû se dire, quand même, hein, qu'est-ce qu'il cherche là ? Bon, alors Pierre, tu vas faire avancer le royaume de Dieu. Tu vas paître mon troupeau, d'accord ? Et là, Pierre, il dit, oui, oui, d'accord, Seigneur, pas de problème. Quand la troisième fois, Jésus revient avec la même question, Pierre, il a dû réaliser l'histoire du coq, chanter trois fois, renier trois fois la question, même. Et il a dû mettre dans ses petits souliers. Et il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui peux le dire. Je ne sais plus quoi te répondre. Moi, je t'aime, mais je ne sais plus quoi te répondre. Et tout d'un coup, Pierre, il réalise que l'amour dont Jésus parle à ce moment-là, c'est pas ses émotions. C'est pas « je sors mon épée pour trancher l'oreille du gars ». C'est pas « Seigneur, tu n'iras pas sur la croix ». C'est pas « Seigneur, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, je ne compte pas trop sur eux, mais moi, Seigneur, je vais pouvoir. » C'est pas ça, l'amour que Jésus cherchait. C'est quelque chose de bien plus important. La Bible nous dit que cet amour-là, c'est le fruit de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec nos bons sentiments. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on ressent ou ce que l'on ne ressent pas. Ça a à voir avec quelque chose de complètement différent. Moi, ce matin, je ne ressens pas grand-chose, à part que j'ai la gorge qui me brûle, que je suis fatigué, qu'il me manque un paquet d'heures de sommeil et que j'ai fait un paquet de kilomètres en trop pour ma carcasse. C'est pas ça l'important ce matin. L'important ce matin, c'est quoi ? C'est Jésus qui vient et qui nous pose cette question. Est-ce que vous m'aimez suffisamment au-delà même des erreurs que vous avez faites pour passer au-delà de vos échecs, pour passer au-delà des paroles des gens sur votre vie, pour passer au-delà de ce que vous avez été dans le passé ? Est-ce que vous aimez suffisamment mon fils Jésus pour le suivre malgré tout ça ? Est-ce que vous me faites suffisamment confiance pour me croire quand je vous dis que tout ça, c'est pas important ? Ce qui est important, c'est ce que j'ai fait pour vous. Vous savez, on vit dans un monde où l'on attache tellement d'importance à ce que l'on fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites « Salut, bonjour, moi c'est Michael, je suis pasteur » ou « Je suis charpentier ». Le « je suis » est lié à ce que je fais. Mais moi, je suis en tant que chrétien, c'est pas lié à ce que je fais, c'est lié à ce que Jésus a fait. Je suis fils de Dieu parce que Jésus a fait quelque chose. Pas à cause de ce que j'ai fait moi, mais à cause de ce que lui a fait. En acceptant que lui avait été, j'ai été restauré dans une vie nouvelle. Je suis une nouvelle création qui est appelée à servir Dieu. Et chacun d'entre nous, mes amis, nous sommes dans un domaine ou dans un autre appelés à servir Dieu. Vous avez été recréés en Christ pour cela. C'est votre destinée. Et le diable, il n'a pas envie que vous entriez dans cette destinée. Donc lui, il fait toujours appel à ce que vous avez été, mais qui a été effacé. Le sang de Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle création, habilitée par Dieu à servir au royaume de Dieu. Quel changement de vie. Si on veut être des chrétiens, on a besoin d'être de nouvelles créations. Est-ce que nous aimons suffisamment Christ pour décider de marcher et de vivre dans cette nouvelle nature qu'il nous a offerte? Est-ce que l'on a envie de voir notre passé définitivement relégué derrière nous? Et est-ce qu'on a envie de se mettre à courir cette course, cette nouvelle vie que Dieu nous tend? Et moi, je crois que la question aujourd'hui, elle est là. Pierre, m'aimes-tu? Michael, m'aimes-tu? Claude, m'aimes-tu? C'est ça la question de Dieu. C'est pas, Michael, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait cette semaine? Ou est-ce que tu as été un bon garçon? Ou est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu t'es arrangé un petit peu? Est-ce que tu t'es sanctifié? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu m'aimes assez? Est-ce que tu m'aimes assez pour quitter ton passé? Pour quitter cette vie qui t'emboucane? Pour quitter tout ce qui te retient dans ta destinée? Est-ce que tu m'aimes assez pour laisser toutes ces choses derrière et décider de marcher dans ta destinée? Toutes choses anciennes sont passées. C'est derrière moi. Le diable n'a pas le droit de me les rappeler. Les gens autour de moi n'ont pas le droit de me les rappeler. Vous savez, à chaque fois que je vois ma mère, elle me dit « Ah, quand tu étais petit, comme tu étais intelligent !» Comme si c'était vraiment quelque chose du passé, vous savez. C'est... Quand tu étais petit, si on l'écoute, tu comptais à 7 mois ou à 8 mois. Et à chaque fois qu'elle dit ça, elle le dit sur un ton, vous avez l'impression qu'elle va rajouter « Et maintenant, qu'est-ce que tu es devenu ?» Elle est persuadée que j'ai raté ma vie. Je suis persuadé que j'ai réussi. Moi, je suis persuadé que quoi qu'elle dise, et parfois, vous savez, quand elle me rappelle des trucs vrais, elle me rappelle des choses, mais je ne vais pas écouter. Je n'ai pas envie d'écouter. Je n'ai pas besoin d'écouter. Parce que la parole de Dieu me dit, toutes choses anciennes sont passées. Il n'y a rien qui peut me retenir dans la course que Dieu a prévue. Et moi. Maintenant, si j'aime assez Dieu, si je suis comme Pierre et je réponds, Seigneur, tu le sais, c'est toi qui connais toutes choses, tu le sais, d'aller au plus profond de notre cœur pour chercher non pas nos sentiments, non pas nos ressentis, mais simplement ce fruit de l'esprit que Dieu a mis. Nous sommes nés d'eau et d'esprit, et l'Esprit est là en nous pour créer amour inconditionnel, ce zèle inconditionnel pour les affaires de Dieu qui vont faire qu'on va rentrer dans notre destinée. La question est là. Arrêtez d'écouter le diable quand il vient avec sa petite question. C'est pas trop tard, t'es sûr? Ou c'est pas grave, t'es sûr? Écoutez la question que Jésus pose ce matin. Est-ce que tu m'aimes assez pour rentrer dans notre destinée? Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.